Vous écoutez France Culture. Du grain à moudre jusqu'à 19h. Vous pouvez dès maintenant laisser vos commentaires à la page de l'émission, c'est sur franceculture.fr. Bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver ce soir dans les studios du Parlement européen à Bruxelles. Un mercredi sur deux, du grain à moudre, vous le savez peut-être, réunit son club des observateurs pour traiter des grands enjeux de la campagne européenne. À quelques semaines de ce scrutin, le 25 mai prochain, nous ouvrons ce soir à Bruxelles les portes du club à trois et peut-être quatre parlementaires européens si la dernière personne invitée nous rejoint. Quatre députés européens de sensibilité et de nationalité différentes. Nous allons ensemble aborder la question des migrants ce soir. L'Europe doit-elle en accueillir davantage ou doit-elle au contraire renforcer ses frontières? Un thème sensible à quelques semaines des élections européennes où domine chez les observateurs la crainte d'une montée des populismes. Un thème d'actualité à l'heure où les dirigeants africains et européens se réunissent aujourd'hui et demain ici même à Bruxelles pour un sommet Union européenne-Afrique. Alors il y sera bien sûr question de partenariat économique, des violences en Centrafrique, mais aussi de lutte contre l'immigration irrégulière. On se souvient notamment de l'appel pressant du président malien à conjurer de nouvelles tragédies après les drames du 3 octobre dernier au large de Lampedusa, où plus de 300 migrants ont trouvé la mort noyés. Puis le 11 octobre, au sud de Malte, cette fois, nouveau naufrage qui a coûté la vie à des dizaines de migrants. Si les événements récents sont d'une horreur particulière et inadmissible, a rappelé Ibrahim Boubacar Keïta, c'est chaque année un millier de jeunes Africains dans la force de l'âge qui terminent leur rêve d'Eldorado dans la Méditerranée, la Mer Rouge ou le Sahara. Médiatisées et comme aussi vite oubliées ces tragédies humaines qui se multiplient aux portes de l'Europe, combien de migrants meurent chaque année en tentant de gagner le continent européen? Une enquête transnationale, Migrants Files, a réalisé ces derniers mois un laborieux mais précieux travail de recueil des données. Ce recensement fait état de plus de 23 000 morts depuis plus de 10 ans, un bilan humain équivalent à celui d'une guerre, selon le magazine L'Espresso. Fragilisés dans leur pays, ces hommes et ces femmes, en se déracinant, manifestent leur besoin d'Europe, mais l'Europe a-t-elle besoin d'eux, en termes économiques, mais aussi démographiques et culturels? L'immigration est-elle un fardeau ou une richesse pour notre vieux continent? Passoire pour certains, forteresse pour d'autres, l'Union européenne. Le débat est ouvert jusqu'à 19h sur France Culture et franceculture.fr. Et nos invités ce soir, Isabelle Durand d'abord, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes eurodéputée belge, vice-présidente du Parlement européen et puis membre du groupe des Verts européens. Maria Gabriel, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Eurodéputée, donc également bulgare, membre du PPE, le Parti populaire européen, de centre et centre-droit. Enfin, Graham Watson, bonsoir.
Bonsoir.
Eurodéputée parlementaire britannique de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe. Bonsoir à tous les trois et merci d'avoir accepté ce débat en français sur l'antenne de France Culture. Acte fondateur de la politique migratoire commune, la Convention de Schengen de 1985, suivie de près par le traité de Lisbonne, qui a été une autre étape importante. La politique européenne d'accueil des migrants et de contrôle aux frontières est-elle, selon vous, Graham Watson, un succès pour l'instant?
Un succès, point de vue de notre économie peut-être, mais point de vue de nos peuples, je ne suis pas sûr. Car nous avons un débat qui se porte non seulement sur l'intégration et l'immigration, mais aussi sur l'acceptation. Et j'ai l'impression qu'il n'existe pas la même acceptation au sein de nos peuples qui existait il y a une vingtaine, une trentaine d'années.
Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot d'acceptation? L'intégration, quelque part, ou l'acceptation, la tolérance, l'acceptation culturelle?
La tolérance, l'acceptation, mais aussi la reconnaissance que la diversité et que la richesse qu'apporte l'immigration soit une bonne chose pour la société. Nous n'avons pas une politique d'intégration européenne. Nous avons diverses politiques. En Allemagne, une politique qui n'a pas eu un grand succès. En France, une politique qui n'a pas eu non plus un grand succès. Non plus en Grande-Bretagne. Ces politiques sont différentes, mais nous avons absolument à savoir que le gain en termes économiques et sociaux de l'immigration est en général quelque chose de formidable. Les gens ne le pensent pas comme ça.
Vous insistez tout de suite sur le fait qu'il y a une politique commune et des logiques nationales qui entrent en jeu, puisque les États souverains ont gardé aussi cette prérogative de définir leur propre politique migratoire.
En effet, il y a un échange d'expériences en Europe, mais il n'existe pas encore une politique d'intégration. Et de ça, je pense que nous en avons besoin.
Isabelle Durand, alors succès ou pas cette politique européenne d'accueil et de contrôle aux frontières hein, aussi des migrants? Est-ce que pour le savoir, il faut commencer peut-être par cerner les objectifs que les 28 pays membres de l'Union européenne se sont fixés en la matière? Qu'est-ce qui fait consensus aujourd'hui?
Mais je voudrais 30 secondes revenir sur ce que disait notre collègue sur l'acceptation. Je crois que c'est très important et c'est ça qui détermine tout le reste. C'est la capacité des hommes et des femmes politiques, mais aussi des électeurs, de choisir pour une politique de migratoire, je dirais, mieux adaptée. Moi, l'acceptation, vous avez raison, je l'interprète un peu comme vous. On fête en Belgique les 50 ans de l'immigration marocaine et turque. Et en fait, il y a 50 ans, les immigrés étaient là, enfin ces immigrés-là, et quelque part, ils rasaient les murs. Et tant qu'ils rasent les murs, c'est-à-dire qu'ils font les boulots sur les chantiers, qu'ils ont fait le métro à Bruxelles, comme dans d'autres grandes villes européennes, ça ne dérange pas trop. À partir du moment, ce qui est le cas aujourd'hui, où les migrants, souvent d'ailleurs ayant pris la nationalité du pays où ils vivent, du pays d'accueil, affirment leur identité. Certaines femmes, et beaucoup d'entre elles, portent un foulard. D'autres revendiquent leur identité et leur expression. Ils remplissent nos trams, nos métros, nos bus. Et à ce moment-là, tout d'un coup, l'acceptabilité devient moins grande. Parce que tant qu'on ne les voyait pas, ça ne dérangeait pas. Quand on les voit, ça commence à déranger. Parce que c'est différent, parce que c'est autre chose, c'est une autre manière de vivre, c'est une autre couleur de peau, c'est une autre manière de s'habiller, de manger, d'aller à l'école, etc. Et ça heurte, en particulier en France, puisque nous parlons beaucoup à des Français, un modèle républicain qui a tout ça. Mais c'est vrai aussi ailleurs, y compris dans des pays peut-être moins centralisateurs ou républicains que la France. Et donc je pense que ça, c'est un des problèmes. C'est que les migrants, aujourd'hui, ils s'affirment. Ils sont présents, ils sont là et ils revendiquent de la reconnaissance pour ce qu'ils sont, ce qui est quand même bien normal. Mais ça, ça pose problème.
Ça pose problème, et ça, l'Union européenne peut prendre en compte cette donnée-là, ce facteur-là, peut jouer sur cette idée d'acceptation notamment. On sait qu'on ne peut pas encadrer, légiférer sur les mentalités. En revanche, on peut créer un cadre légal, juridique qui va permettre de sécuriser et d'aider ces migrants qui arrivent dans chacun de nos pays à exister.
Oui, mais c'est justement ce qu'on ne fait pas jusqu'à présent. Et on ne le fait pas sans doute aussi parce qu'il y a une pression populaire, je dirais, par rapport à cette différence qui est difficilement vécue sur le terrain. Et donc, on ne prend pas au niveau européen les dispositions, par exemple, pour organiser une migration légale. Une migration organisée, qui n'est pas seulement une migration choisie avec les qualifications les meilleures, mais une migration plus organisée dans laquelle les gens pourraient aller et venir, c'est-à-dire des gens d'Afrique subsaharienne pourraient venir en Europe, travailler pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, retourner et revenir, ça change tout. Ceux qui viennent et qui sont dans les bateaux, ce sont des gens qui essayent de réussir leur migration et qui savent très bien que s'ils la réussissent, ils ne reviendront pas au pays, parce que s'ils reviennent au pays, ils ne pourront plus revenir en Europe.
Alors, il y a une immigration légale quand même, mais vous la trouvez trop fermée, trop restrictive aujourd'hui, celle qui englobe le regroupement familial, l'immigration économique notamment. Ces voies d'accès-là, pour vous ?
Je pense qu'elles sont faibles. Elles sont faibles, c'est pour ça que plein de gens essayent d'autres voies, y compris l'asile, alors qu'au fond, ils ne sont pas dans les conditions de demander l'asile, mais ils l'essayent parce qu'ils ne parviennent pas entrer dans les petits créneaux qui sont aujourd'hui ouverts.
330 000 dossiers de demandeurs d'asile déposés en Europe, ça c'était pour l'année 2012, et très peu d'élus à l'arrivée. Hein. Maria Gabriel, je vous repose à vous la question posée à l'instant à Isabelle Durand. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui consensus entre les 28 pays membres de l'Union européenne? Quel est ce socle commun sur lequel vous allez pouvoir approfondir cette politique migratoire, cette politique commune?
Je pense qu'en excluant juste quelques tendances politiques très extrêmes et qui spéculent sur la question, on ne se fatiguera pas de répéter que la mobilité est un droit de chaque citoyen, libre à lui de se décider où travailler à l'étranger ou dans son pays, et que cela apporte des bénéfices et aux citoyens européens et à l'économie européenne. Donc je pense que ça, c'est notre socle commun. Et à partir de là, on pourrait très clairement se dire aussi quelles sont les limites de nos politiques, parce qu'on s'aperçoit très rapidement que nous n'avons pas une politique commune de migration. Nous voyons aussi que très rapidement, on sort au problème de la mise en application, y compris de la législation qui existe déjà, directive antidiscrimination, mais aussi directive des visas, tout simplement. Nous avons une politique commune de visas. En 2012 seulement, dans l'espace Schengen, il y a eu 14 millions de visas qui ont été délivrés. Force est ensuite de reconnaître que nous n'avons pas de flexibilité. Exemple donné par ma collègue Durand, des visas à entrée multiple, possibilité de postuler pour un visa dans un pays autre que le pays de destination, possibilité aussi de faire la demande en ligne, par exemple. Là, ce sont des nouvelles propositions qui arrivent maintenant. Donc, jusqu'ici, on ne les a pas eues et ça a eu plutôt des répercussions négatives. Et on l'aperçoit, malheureusement, je pense, dans certaines opinions publiques dans les États membres. Et aujourd'hui, c'est un énorme défi.
Maria Gabriel dit bien les limites de nos politiques. Hein, et son français est assez bon pour que ce ne soit pas un hasard et non pas les limites de notre politique. Alors justement, Graham Watson, déjà expliquez-nous peut-être qui fixe les principales orientations. Est-ce que c'est le Conseil européen? Est-ce que c'est vous, les parlementaires? Est-ce que c'est la Commission?
C'est la Commission qui propose sur la base des traités et c'est nous, le Parlement européen, et le Conseil des ministres qui décident sur la politique. Le problème, c'est que les États membres, en réalité, n'ont pas voulu une politique d'immigration ou même d'asile au niveau européen.
Le statut, par exemple, de réfugié européen n'est pas pour demain?
Exactement.
Mais il est toujours en discussion.
J'espère fort bien que ça soit pour demain, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que les chefs des partis politiques dans nos États membres ont peur de ce débat. Ils ont peur des partis souvent extrême droite, parfois d'extrême gauche, mais les partis extrémistes qui s'opposent à cette migration. Et dans une situation où nous nous trouvons, dans une récession économique dure, très profonde, évidemment, les gens ont peur pour leur poste d'emploi. Et ils croient, ce n'est pas vrai d'ailleurs, mais ils croient que l'immigration menace leur poste d'emploi, qu'il y a d'autres qui prennent ces postes d'emploi ou qui travaillent pour un salaire moins. Ce n'est pas vrai, nous avons tous des législations sur les salaires minimums. Nous n'avons pas
L'Allemagne
va
en avoir une.
Mais même quand on a des législations sur les salaires minimums, on sait aussi que le problème, c'est souvent la fraude, c'est-à-dire certains employeurs dans certains secteurs en particulier qui, avec des sociétés éventuellement basées d'ailleurs ailleurs, organisent des rémunérations et des manières de travailler qui sont tout à fait illégales. Et donc ça nous interroge, nous, et je dis nous, je parle donc des États membres, c'est pas l'Union européenne qui peut le faire, d'organiser le contrôle de ces employeurs un peu véreux. Et il y en a beaucoup dans le secteur de la construction, dans le secteur de l'horeca, dans le secteur du transport. Et c'est vrai pour des migrants hors européens, mais c'est aussi vrai pour des migrants de l'Europe de l'Est en particulier, où les salaires horaires sont beaucoup moins élevés pour ce genre de boulot. Donc nos États membres doivent aussi balayer devant leur propre porte et faire le contrôle de l'application des règles européennes existantes, même si elles ne sont pas suffisantes. Et ce n'est pas toujours le cas non plus.
Mais Graham Watson, notre journaliste chroniqueur Thomas Cluzel, le rappelait ce matin dans sa revue de presse sur France Culture. En Angleterre, il y a eu un rapport qui minimisait l'impact négatif de l'immigration visiblement sur l'emploi des Britanniques. Rapport qui a été aussitôt mis de côté, plus ou moins enterré. Et c'est The Independent qui dit que ce rapport contredisait quand même l'hypothèse avancée par le gouvernement, comme quoi les travailleurs immigrés font augmenter le chômage au Royaume-Uni. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas plus clairement? Quel intérêt un gouvernement a à cacher ce type d'information?
C'était un rapport indépendant, mais qui avait été demandé par le gouvernement. Le parti majoritaire au sein du gouvernement, qui est le parti conservateur, n'aimait pas le rapport et donc ils ont essayé de le cacher. Ils insistent devant la Commission européenne qu'il y a des gens qui viennent des autres pays européens en Grande-Bretagne seulement pour bénéficier de notre état social. Il n'y a pas de preuves, le gouvernement britannique ne trouve pas de preuves. En réalité, nous savons, et moi je le sais comme député dans le sud-ouest de l'Angleterre, que si on n'avait pas une forte immigration de la Pologne, de la Lituanie, de la Roumanie, on n'aurait pas assez de personnes pour faire les travaux dans nos hôpitaux, les travaux agriculturels, d'autres où la demande est plus importante que l'offre de l'emploi.
Ça, c'est une vraie question aussi, Maria Gabriel, hein, vous qui êtes eurodéputée, je le rappelle, bulgare. C'est une autre ligne de fracture, de scission au sein de l'Union européenne entre les différents États membres. C'est ce clivage hein, qui passe aujourd'hui d'Est en Ouest. On a entendu la France sous Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, ou encore l'Angleterre de David Cameron, qui n'ont pas caché leur réticence hein, à la levée des restrictions en place depuis 2007 pour la Roumanie et la Bulgarie. Crainte exprimée d'une immigration massive de travailleurs qui viendraient d'Europe centrale, un afflux de migrants roumains et bulgares. On est le 3 avril aujourd'hui, cette restriction. Ces restrictions ont majoritairement été levées au 1er avril. Est-ce que cette immigration massive a eu lieu?
Mais il suffit de citer les faits. tout simplement. On est le 2 avril, le 1er janvier, en Grande-Bretagne, il y a eu un seul Roumain qui s'est présenté à l'aéroport. Donc, alors que je vous rappelle que juste un mois avant, on nous a prévenu qu'il y aurait 29 millions. Hein. On avait quand même pris le soin de prendre la population entière et de la Bulgarie et de la Roumanie. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui est le plus important, c'est de sortir des faits et des arguments. Parce que on s'aperçoit que c'est un sujet qui est très facilement instrumentalisé. Il suscite les peurs des gens. Il fait habiter ces craintes, notamment dû à un contexte de crise extrêmement difficile. Mais lorsqu'on donne en avant, on cite des chiffres, on s'aperçoit très rapidement que c'est tout simplement une manipulation. Dommage qu'il y ait des hommes politiques qui ne soient pas responsables et ne se rendent pas compte qu'à long terme, ce n'est pas une tendance qui permettra à ce que le continent européen puisse avoir un meilleur projet politique et avoir une meilleure économie. Mais on s'aperçoit très aussi que c'est instrumentalisé au niveau interne. Mais en revanche, je suis contente plutôt. Mais on voit qu'il y a des contextes, notamment préélectoraux. C'était le cas en France, c'était le cas aux Pays-Bas, c'était pas aussi loin ce débat. On voit aussi ce qui se passe en Grande-Bretagne. En revanche, lorsqu'on met en avant les chiffres, on voit que c'est pas du tout vrai. Je tiens à rappeler qu'avant les 7 derniers pays qui ont fait tomber le 1er janvier les dernières restrictions, il y en a eu 19 pays dans lesquels déjà les Bulgares et les Roumains circulaient librement. Concrètement, dans le cas de la France, même avant le 1er janvier, il y avait une liste avec presque 300 professions, métiers pour lesquels les Bulgares et les Roumains pouvaient postuler. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on oublie de le dire. Donc maintenant, je pense qu'il est nécessaire toujours d'élever le débat au niveau européen et de défendre un principe qui ne doit plus se discuter. C'est le principe de la liberté de circulation qui fait partie des 4 libertés fondamentales qui font l'identité de l'Union européenne.
Principe malmené encore aujourd'hui, selon vous, trop malmené?
Tout simplement, très, très facilement manipulable dans des jeux politiques internes, notamment y compris quand on nous présente des mesures de restriction, on s'aperçoit que les mesures présentées, c'est tout simplement des dispositions qui sont déjà prises dans les directives. Je donne un exemple. En Allemagne, on met en avant la proposition qu'il y aura une restriction au-delà des 3 mois. C'est déjà dans la directive européenne. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir élever le débat au niveau de l'expertise et au niveau d'une conscience européenne qui nous permettra de continuer à poursuivre les objectifs de cette union, tout simplement de dire clairement c'est grâce à cette mobilité que nous avons la chance d'avoir une identité européenne et d'avoir des répercussions très positives sur notre économie.
Isabelle Durand, eurodéputée belge, vice-présidente du Parlement européen, instrumentalisation, c'est ce que font effectivement les dirigeants de certains pays membres de l'Union européenne. C'est ce que fait par exemple votre Premier ministre britannique, Graham Watson, quand il propose de limiter les allocations sociales pour les immigrés européens. C'est ce que fait aussi l'Allemagne avec les partis de la grande coalition quand ils se mettent d'accord pour mieux contrôler l'attribution de certaines prestations sociales. On se sert de cette question des migrants pour aller vers des politiques restrictives en interne.
Oui, et je pense que c'est entre autres lié d'ailleurs, d'une part, à la réponse à ce malaise, voire ce fantasme, enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais ce qui est ressenti, d'une part. Et d'autre part, je vous dirais que ça ne concerne pas que les travailleurs pour lesquels on vient de lever les restrictions, donc par exemple les Bulgares et les Roumains, mais dans mon propre pays, en Belgique, par rapport à la libre circulation des travailleurs italiens ou français, on a, ces dernières années, multiplié par 3 le nombre de personnes européennes qui, parce qu'elles pèsent d'une charge, elles pèseraient d'une charge déraisonnable sur la sécurité sociale, sont renvoyées dans leur pays. Et qu'est-ce qu'on appelle? Parce que, alors voilà, entre nous, on s'est entendu dans la directive pour parler de charge déraisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire, déraisonnable? L'interprétation qu'on en fait dans mon propre pays, c'est de dire quelqu'un, par exemple, qui est dans un emploi subsidié par le pouvoir public, un emploi d'insertion, un emploi payé par le pouvoir public et pas un emploi payé par le privé, c'est donc une charge trop grande pour la sécurité sociale. Donc, on renvoie des gens, des Italiens, des Français qui travaillent en Belgique dans des emplois subsidiés, on les renvoie dans leur pays d'origine. Ça, c'est pas pour moi la libre circulation des travailleurs. Qu'en effet, il y ait une protection de nos systèmes sociaux, c'est normal. On peut pas non plus, considérer que la sécurité sociale d'un pays financé par ses travailleurs soit mise à profit pour l'ensemble des Européens qui viendraient. Par contre, un Européen d'un pays voisin qui travaille, qui a un salaire, dont les enfants vont à l'école dans un pays de l'Union, ne peut pas être renvoyé, même si le dit emploi est un emploi subventionné. Donc on interprète les règles un peu à sa manière parce qu'il y a des impératifs domestiques de messages à donner à ceux qui croient que voilà, on est en situation de ne plus pouvoir accepter tous ces gens-là.
L'immigré, c'est le parfait bouc émissaire.
Bien sûr.
Et toutes ces, une petite question de bon sens, juste toutes ces restrictions, est-ce qu'elles sont conformes à la législation européenne?
Ben,
est-ce que l'Europe peut faire valoir du
c'est
coup,
l'interprétation
devant...
de la règle juridique qu'on dise libre circulation des travailleurs à la condition qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable sur la sécurité sociale. C'est normal. Enfin, je ne trouve pas ça anormal. Ça, c'est la directive. L'interprétation de la directive, elle est parfois, à mon sens, très restrictive. Et la Commission se garde bien de se prononcer là-dessus. Parce que j'aimerais bien, moi, que la Commission soit aussi sévère sur ces interprétations-là que sur des interprétations sur les aspects budgétaires, le semestre européen ou dans d'autres domaines où on vient chercher, je dirais, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, des poux aux États membres, alors qu'on leur en cherche aussi sur l'application correcte des directives européennes en matière de libre circulation des travailleurs.
Là-dessus, peu de contrôle et peu de voix qui s'élèvent pour rappeler les grands principes. Ouais. Hein, c'est bien ça. 18h40 et même un petit peu plus sur France Culture, la social-démocrate Inés Ayala Sender vient nous rejoindre. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes parlementaire espagnole, social-démocrate. Donc on a attaqué ce débat sans vous hein, sur la politique migratoire de l'Union européenne en abordant un peu ce qui faisait à la fois consensus parmi les États membres mais également ce qui pouvait créer de la différence. Et on était justement en train d'évoquer la fracture, disons, ou les scissions qui peuvent exister aujourd'hui entre l'Est et l'Ouest, l'Ouest de l'Europe, là où on était plutôt habitué à voir des divergences, des clivages entre le Nord et le Sud. Hein. Parlons-en justement, ces clivages entre partenaires européens du Nord et du Sud, quelle solidarité entre les pays du Sud, aujourd'hui porte d'entrée de ces migrants, et les pays du Nord, pays d'accueil et souvent destination principale. Inés Ayala Sender.
Bon, nous, on est dans une situation, les pays du Sud actuellement, où on se voit dans le grand paradoxe d'encore être la porte d'entrée des centaines et des milliers d'immigrés qui arrivent et qui ne vont pas s'arrêter malgré les renforcements des concertines et d'autres mesures, ou même des mesures de frontières qu'on a créées justement pour cela, parce que les conditions sont trop fortes et la situation est trop forte pour pouvoir les arrêter. Et d'autre part, il y a les niveaux de chômage de nos jeunes qui font qu'actuellement, l'Espagne est un pays à nouveau des émigrants espagnols, émigrants évidemment sont des Européens, mais qui ne trouvent plus le travail chez eux et qui alors doivent sortir vers des pays comme la Belgique ou l'Allemagne ou même Amérique latine qui est en train de s'offrir aussi paradoxalement aux jeunes espagnols qui arrivent. Alors, dans cette situation, nous, qu'on avait, dans les années passées, essayé justement d'organiser les mesures, premièrement pour développer les pays d'origine de ces jeunes qui arrivent sur nos plages, et beaucoup qui meurent. Et on avait vraiment fait un grand travail avec les pays, la Mauritanie, et les pays africains, justement, pour essayer de, même avec des accords, comme les accords de pêche et tout ça, de vraiment créer des situations ou des conditions pour développer le travail et l'emploi là-bas. Maintenant, on se voit sous une pression complètement terrible. Et ce qu'on voit, c'est que pour les aspects concernant les réfugiés, on a été capable de s'entendre, d'organiser une politique européenne où tout le monde prenait ses responsabilités, pour ainsi dire, sur l'immigration. Et moi, je le dis depuis des années déjà, c'est la grande matière qu'on n'a pas résolue. La façon d'intégrer, des accueillir et d'intégrer par rapport à d'autres grandes régions, comme c'est les États-Unis, comme c'est maintenant, bon, même l'Afrique. L'Afrique, c'est un pays où il y a énormément, ça veut dire le plus pauvre, normalement, qui reçoivent le plus de réfugiés et des immigrés. Et nous, par contre, là, on n'a pas été capable. Et je pense que, justement, l'image qu'on donne, c'est l'image qu'après, on le reçoit dans les populismes, dans la montée des populismes, parce qu'on n'a pas été capable vraiment de développer ces modèles d'accueil et
d'acceptation. On a ouvert toute l'émission justement sur ce mot qui avait été lancé par Graham Watson. Vous parlez de cette pression migratoire, hein, c'est le terme qui a été employé après Là encore, récemment, un nouvel afflux de migrants dans l'enclave de Melilla au Maroc. Madrid qui vient de demander 45 millions d'euros à Bruxelles pour essayer de faire face, à l'instar de ce qui s'est passé pour l'Italie après le drame de Lampedusa en octobre dernier. L'Union européenne avait accordé une enveloppe, là encore, de 30 millions d'euros supplémentaires à l'Italie. Mais Graham Watson, à quoi servent ces fonds, ou surtout à quoi devraient-ils servir? Des observateurs et notamment des ONG estiment qu'ils sont trop affectés à la surveillance plutôt qu'à l'accueil et aux structures d'accueil de ces migrants.
En effet, nous avons un problème et la Commission européenne s'est plainte contre l'Espagne quand il s'agissait de tirer les balles, même les balles de caoutchouc, sur les immigrés qui essayaient de venir en nageant vers la côte de Ceuta. Non, il faut que l'Europe ait une politique et il faut que cette politique fasse deux choses. D'abord, rend acceptable et même normal la libre circulation en Europe. Nous sommes tous des Européens. Ça, il faut accepter. Nous sommes des citoyens européens autant que des citoyens français, belges, britanniques, etc. Et nous le savons aussi, car une des meilleures statistiques de l'Eurostat, c'est la statistique sur les mariages. Savez-vous qu'un mariage sur 6, maintenant, c'est entre les personnes de passeports différents? Or, la conséquence de cela, dans 25 ans d'ici, c'est incroyable, vous ne pourrez pas rendre une soupe de poisson dans un aquarium. Nous sommes des Européens, mais nous avons besoin aussi d'une politique envers les pays tiers, car nous ne faisons pas assez d'enfants nous-mêmes. Nous le savons, c'est particulièrement clair en Italie, en Allemagne, où la population se réduit. Mais donc, faisons une vraie politique d'immigration, comme font les Canadiens, ce serait de définir combien de personnes on veut chaque année.
Il faut des quotas.
Avec quel...
Il faut des quotas. Européens ou nationaux?
À mon avis, on le fait européen, puisque si ces gens-là viennent dans l'espace Schengen, ils ont le droit de circuler. Donc, au niveau européen, combien de personnes, quelles qualifications, et puis de travailler avec les pays d'origine, les pays qui pourvoient ces personnes, pour aider à eux de reformer des instituteurs ou institutrices, des infirmières, les personnes qu'ils perdent. C'est comme ça que fait le Canada et c'est comme ça qu'à mon avis, nous devons faire nous.
C'est sur ce dernier point, notamment l'objet des discussions actuellement lors de ce sommet Union européenne-Afrique en cours. C'est un des volets des discussions en cours. Mais comme toujours, le problème, c'est que chaque partie fera au mieux pour défendre ses intérêts. Et les intérêts des pays tiers ne sont pas forcément les mêmes intérêts que ceux des pays de l'Union européenne, hein, les pays d'Afrique aujourd'hui réunis. Alors par exemple, pour les Européens, on se dit qu'il faudrait un peu plus de contrôle au départ. Pour les Africains, eux demandent surtout un accès facilité à l'espace Schengen. Et puis d'avoir un petit peu moins de difficultés à obtenir des visas sous certaines conditions, évidemment. Alors là encore, que peut-on attendre de ce sommet Union européenne-Afrique?
Mais je pense que ce sommet va être évidemment un moment relativement important pour tenter de mettre toutes ces questions sur la table. Alors bien sûr, chaque État africain va sans doute le défendre de son point de vue à lui, comme État africain. Les Européens parleront-ils, je dirais, comme Européens ou bien autre, un peu différemment? Je crains quand même qu'il y ait là quelques nuances. Ceci dit, je pense que la question, par exemple, des accords de partenariat économique que nous avons avec ces pays sont à certains égards contestables parce qu'on veut développer ces pays, ce qui est une bonne idée, évidemment, et aider ou soutenir du développement régional. Mais à quel prix et comment? Et donc ça nous pose aussi toutes nos questions liées aux accords de libre-échange, aux accords de pêche dont on a parlé. Qui est-ce que cela avantage à la fin? Est-ce que cela avantage réellement les petits producteurs ou le développement de ce pays? Est-ce que cela avantage les grosses multinationales qui sont sur place? Donc ce sont ces questions-là qui sont là derrière. Les autres questions sont évidemment celles de la formation, de l'éducation, de la santé. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe à ce que, parce que nous manquons par exemple en Europe, dans certains pays plus que d'autres, d'infirmiers ou d'infirmières, de gens qui s'occupent des soins aux personnes, il y a quand même un paradoxe d'aller chercher, si pas en Afrique, en tout cas dans certains pays, des prestataires de services que nous ne sommes pas qui sont pourtant si nécessaires dans les pays concernés. Donc ça ne va pas être une discussion facile et je crains que ce soit un sommet qui, malgré tout, soit un bon échange de vues, mais n'aboutisse pas réellement à définir une meilleure relation plus claire et plus saine. On peut parler de partenariat, c'est sympathique, mais en fait, ce n'est pas toujours du partenariat quand même, il ne faut pas se tromper.
Pourquoi? Pour qu'il y ait partenariat, il faut pouvoir discuter
à armes égales. Partenariat, ça veut dire qu'on est à égalité. Oui. Quoi, hein, qu'on est... Bon, ce n'est pas vraiment le cas tout de même. Hein.
Vous vouliez intervenir, Maria Gabriel.
Je voudrais tout simplement attirer l'attention sur le fait que j'espère que ce sommet sera aussi une occasion pour s'attaquer aux vraies causes de la migration, y compris la migration irrégulière, parce que nous le savons, la pauvreté, l'insécurité alimentaire, les conflits. Mais j'aimerais que ce débat n'échappe pas au fait que nous avons certes une migration légale avec des effets très bénéfiques, mais nous avons aussi des réseaux qui sont très facilement adaptables, notamment des réseaux de trafic d'êtres humains, notamment pour le travail forcé de plus en plus que l'exploitation sexuelle, par exemple, et qu'à ce moment, il est nécessaire de nous concentrer sur les trois étapes. D'abord, la prévention, faire connaître les droits de ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont comme droit lorsqu'ils viennent en Europe? Souvent, les trafiquants utilisent le manque de connaissances. Deuxième chose, assistance lorsque les personnes se retrouvent, leur assurer évidemment des conditions d'accueil favorables lorsqu'elles ont besoin de protection, mais travailler davantage l'Europe et l'Afrique sur aussi le retour volontaire. Ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas expliqué ce que c'est. Et enfin, les projets de vie, ce que je dirais, c'est de travailler avec les pays en voie de développement pour proposer des alternatives à ces gens-là. Tant qu'ils n'auront pas une réelle perspective pour leur vie, ils seront toujours tentés de venir en Europe et pas seulement, bien sûr.
Or, les derniers dispositifs mis en place sont quand même encore très loin des objectifs évoqués à l'instant par Maria Gabriel. Bien sûr, il y a le dispositif Frontex que vous citiez, Inès Ayala-Sender, mais il y a aussi ce dispositif Eurosur qui a été approuvé en octobre dernier par les députés européens, mis en place en décembre, qui est quoi? Un système de surveillance, en fait, des frontières ou même plutôt des mers, via des caméras, des satellites, des drones.
Oui, pour le site, c'était justement pour éviter les morts. C'était pour éviter ce qui s'était passé. Mais en tout cas, je trouve que ni avec Frontex, ni avec Eurosud, on ne va jamais arrêter les gens d'arriver tant que les conditions et les changements climatiques les poussent vers le nord. C'est normalement, ça va être très, très difficile qu'ils s'arrêtent. Mais en plus, il y a la paradoxe, comme M. Watson disait, justement, l'Europe, c'est des peuples. Je viens justement d'une réunion avec 6 régions espagnoles qui s'étaient vues avec des représentants de 44 régions européennes qui se dépeuplent, mais à une vitesse énorme. Ça veut dire qu'il n'y a même pas des gens pour rester sur le territoire. Et ce ne sont pas des grands territoires, ce sont des petits territoires par rapport à d'autres régions. Alors, il faut vraiment... Je trouve que ça, c'est encore la grande matière qui nous manque. C'est un vrai modèle d'intégration des nouveaux Européens, comme moi je dis, parce qu'ils ont la volonté d'y arriver. Il faut absolument, comme tu as dit, de pas déséquilibrer là d'où ils partent, mais c'est vrai que pour certains, aller et venir, ça c'est aussi une solution. De plus en plus, chez nous, les travailleurs qui viennent du Maroc, ils viennent. Ça veut dire, c'est parce que... Mais pour cela, il faut qu'ils aient le visa correspondant, que ça prend pas des mois à prendre des visas, etc. Ça veut dire, c'est vraiment... Il faut être capable de... C'est vrai, il y a l'aspect sécuritaire par rapport à certains focus de où il y a des éléments graves d'insécurité.
Mais c'est pas l'aspect sécuritaire, mais il y a aussi que cette politique, effectivement, de contrôle a un coût humain qui est quand même très important.
Et moi, Isabelle Durand. Hier, j'étais à Lisbonne pour la préparation de l'Assemblée Union pour la Méditerranée qui aura pour thème les migrations. Et le directeur général de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, était présent. Et il nous a dit aussi simplement que ça, Frontex, Eurosur et tous ces dispositifs, vous travaillez les politiques de migration avec des outils et des instruments du passé. Ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qui, bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'on ouvre toutes les frontières comme ça du jour au lendemain, mais par contre, faciliter et travailler à des modalités d'une plus grande liberté de circulation, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas de dépenser des sommes astronomiques à se protéger avec des dispositifs qui ne seront jamais suffisants.
200 millions d'euros pour les 7 ans à venir pour Eurosur. Voilà,
nous parlons d'un espace de liberté, sécurité et justice, mais nous parlons de ces libertés, c'est sécurité et justice.
Oui, absolument.
Mais à ce titre, il faudrait quand même citer le fonds asile et migration que nous avons adopté, parce qu'il me semble que c'était un pas en avant vers cette politique, parce que dans ce fonds, pour la première fois, lorsqu'on parle des pays de développement, il y a posé le principe de cohérence, quelque chose qui manquait jusqu'ici. Et pour une autre question très importante, dans le fonds, pour la première fois, il y a deux choses. D'abord, aider davantage les États qui sont en première ligne des flux migratoires. Jusqu'ici, cette solidarité européenne n'était pas spontanée. Mon propre pays, la Bulgarie, a dû faire face pour la première fois aux réfugiés syriens.
Et ça, c'est une déclaration déclaration de principe
la crise que cela a provoqué. Mais aujourd'hui, il y a des fonds, un mécanisme qui permettra de déclencher plus rapidement. Et deuxième chose, des moyens qui seront financés justement destinés à cette intégration, comme par exemple assurer des cours de langue pour que la personne puisse mieux s'intégrer dans la société. C'est quelque chose de nouveau et c'est par le fonds Asile et Migration que nous avons adopté il y a à peine un mois, nous pouvons avancer. En tout cas, on est très loin de la fin de la route, mais c'est un premier pas et il me semble que c'est dans la bonne direction.
Un mécanisme d'alerte aussi, rapide, qui devrait accorder un petit peu plus de garantie aujourd'hui aux demandeurs d'asile. C'est aussi ça, Isabelle Durand.
Je voudrais simplement dire un chiffre aussi. Vous savez qu'au Liban, par exemple, avec les réfugiés syriens, un quart de la population, ce sont des réfugiés syriens. Il y a 3,2 millions de réfugiés afghans en Iran. Il y a 2 millions de réfugiés syriens en Jordanie. Alors quand on est là avec nos petits chiffres,
européenne, Pinaille, et elle accepte une toute petite partie, effectivement, c'est ce que vous rappelez, des demandes d'asile et des réfugiés aujourd'hui, réfugiés politiques, réfugiés
même
des guerres.
Réfugiés temporaires, ce n'est même pas des réfugiés qui vont nécessairement rester définitivement, mais qui sont là le temps, je dirais, d'un conflit dont ils sont les premières victimes.
Une petite chose, on a aussi entendu parler des dérives possibles aujourd'hui avec cette politique assez restrictive en termes migratoires et notamment du cas de marchandisation de certains passeports. Ça a été le cas en Bulgarie. C'est une enquête qui avait été réalisée par le Daily Telegraph. C'est aussi un projet qui a été évoqué par l'État maltais de vendre un peu cette citoyenneté européenne. On est en temps de crise, vous le rappeliez, Graham Watson. Est-ce que ça, c'est une dérive dont il faut aussi trouver le moyen de se protéger?
Je pense que dans le cas du Malte, oui. On a vu en Malte et au Chypre la vente des passeports à ceux qui ont assez d'argent pour les payer. Ça peut être un argent pas très grand, même 30 000, 40 000 euros. Mais on a besoin d'une politique loyale entre les États membres oui. et égalitaire, ce qu'on n'a pas.
Surtout.
Mais il faut absolument que les gouvernements des pays membres reconnaissent qu'ils ne savent pas eux-mêmes contrôler leurs frontières. C'est impossible. Même en agissant tous ensemble, en mettant ensemble toutes nos forces à former une politique intelligente, c'est la seule chose à faire.
Vous êtes tous autour de cette table, et ce sera le mot de la fin, favorable aujourd'hui à une politique plus souple, si je vous ai bien compris, en termes aussi d'accueil, d'intégration, une politique qui ne serait pas simplement ou plus simplement axée, comme elle l'est trop souvent aujourd'hui, vers la sécurité. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? L'Europe a besoin de davantage de migrants. Il n'y a pas que les migrants qui ont besoin de l'Europe.
De migrants et de migrants qui peuvent aller et venir. Moi, je tiens très fort à cet aspect parce que je pense que c'est la condition pour éviter tout ce que l'on connaît en termes de renvoi forcé, d'expulsion, etc. Il faut pouvoir aller et venir. Si on peut aller et venir, tout se décoince, si je peux dire. La question de la sécurité se pose tout à fait différemment. Donc oui, plus souple, aller-retour, intégration et travail de coopération avec les États d'origine de ces pays aussi. Mais ce n'est pas ça qui empêchera les migrants de venir.
Et comment faire entendre ça à vos États?
Il faut du courage, il faut surtout du courage.
Watson, Maria Gabriel, Inés Ayala Sender.
On doit déjà clarifier qu'on n'expulse pas les Espagnols, par exemple,
de Belgique.
Ça a été le grand scandale et voilà, c'était très difficile d'expliquer. Et de l'Allemagne qui est en train d'étudier des mesures pour cela. Ça veut dire qu'il faut aussi clarifier au sein de chez nous cette libre circulation réelle, parce que sinon on parle de quoi?
Mais je pense que c'est précisément ça, ce que dit Inés Ayala. C'est, nous avons besoin d'une politique intelligente, humaine, mais une politique claire. Parce que nos concitoyens, ils ont des peurs parce qu'ils ne savent pas quelle est la politique de l'Union européenne. Ils savent que ça ne marche pas avec 28 politiques différentes nationales, mais ils ne savent pas quelle est la politique de l'Union. C'est pour cela qu'on a besoin d'une politique de l'Union. Et comme ça, nos concitoyens peuvent choisir entre les partis politiques sur la base de cette politique-là.
Merci beaucoup, Graham Watson.
Quand on parle de sécurité aussi, de veiller à ce que la sécurité elle est interne pour les citoyens européens, mais aussi c'est une sécurité que nous devons assurer pour ceux qui viennent sur notre territoire, d'où la difficulté et de nous focaliser sur les aspects très positifs de la migration.
Merci beaucoup, Graham Watson, eurodéputé britannique, Maria Gabriel, eurodéputé bulgare. Merci à vous, Inés Ayala Sender, qui était là pour l'Espagne, et Isabelle Durand, eurodéputé belge. Merci beaucoup à tous les quatre du Grain à Moudre. Une émission préparée par Céline Leclerc, Fanny Richez et Sarah Petitbon, et réalisée ce soir par Jean-Christophe Francis.
assisté de Jean-Philippe Demarchin à la technique. On se retrouve demain autour du pacte de responsabilité. On discutera aussi remaniement sous l'angle économique. Rendez-vous donc pour un prochain débat sur les grandes orientations économiques françaises. Et je vous donne également rendez-vous dans 15 jours pour un prochain club des observateurs en direct, cette fois de Strasbourg. D'ici là, très bonne soirée à tous. France Culture, il est presque 19h. Laurent Goumard, bonsoir.